Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Badène. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio Avignon sur 95.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le meilleur du Sylvaner. Nous partirons donc en Alsace, le château Carbonieux en Pessac Léognan. Nous serons à Bordeaux, les arômes du vin, le Vino Quiz pour gagner les jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, ils sont là, ils sont trois. Hélène Pio, belle comme un cœur. Pas que vous le dire, vous êtes quand même très belle. David Cobol et Philippe Orbach, bonjour messieurs, vous êtes très beaux aussi.
Quoi. Quel dommage que ce soit de la radio et pas de la télé.
Alors, Invino, donc aujourd'hui, aussi, paraît, hein. Accueille un nouvel invité, Charles Armand de Belnay, un garçon formidable, directeur général de cette maison Bollinger. Bonjour Charles Armand.
Bonjour Alain.
Alors Hélène, vous savez qu'au tout début pour James Bond, c'était d'abord Tétinger, puis Dom Pérignon, et enfin Bollinger. Vous saviez ça ou pas?
Eh bien écoutez, je le sais puisque j'étais la première James Bond girl en 1912. C'était moi.
Et elle n'a pas changé. Ah, décongelé ce matin, c'est le 6 octobre. Alors, vous n'avez pas changé. Alors, je vous présente. Donc, là, il y a Donald Trump, il y a Emmanuel Macron et Charles Armand de Belnay.
Voilà, absolument. Alors, beaucoup plus jeune que moi, je voudrais vous parler aujourd'hui de la grande année 2008, qui est la magnifique cuvée que vient de sortir Bollinger. Donc, bonjour Charles Armand.
Bonjour.
Donc cette magnifique cuvée qu'on va pouvoir découvrir pour les fêtes là. Donc c'est on va commencer par parler de la grande année. C'est la cuvée phare mythique chez Bollinger.
Oui, c'est une de nos plus belles cuvées. Donc c'est la première cuvée millésimée dans notre gamme. Et la cuvée donc c'est une cuvée qui se caractérise par plusieurs choses. Le premier point, c'est que c'est une cuvée qui est quasiment faite 100% de façon artisanale. Puisque tout est fait à la main, c'est remué à la main, 100% des bouteilles sont remuées à la main. C'est vinifié, 100% sont vinifiés sous bois, ce qui est vraiment une vraie spécificité de la maison Bollinger. Hein. On a 3500 tonneaux pour vinifier ces vins, donc 100% sont vinifiés. Et puis c'est 100%
avec un tonnelier
grand cru
maison
et premier
en plus.
Cru, avec notre propre tonnelier qui répare et entretient ces 3500 tonneaux.
Ouais, effectivement, donc, vous le disiez, pardon, je vous ai coupé. Donc, principalement des grands crus de la montagne de Reims et de la côte des Blancs.
Que des grands crus, premiers crus, et principalement évidemment du pinot noir. Nous, notre cœur, il bat pour le pinot noir.
La génétique,
c'est notre colonne
pinot noir,
vertébrale. C'est notre colonne vertébrale. Et on a 70% de pinot noir dans la grande année et 30% de chardonnay.
C'est un pourcentage qui est le même dans chaque grande année ou bien vous adaptez en fonction des millésimes?
Ça peut un tout petit peu, ça peut varier, mais globalement, on reste sur cette base de 70-30.
D'accord. Alors justement, ce millésime 2008, racontez-nous, beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'intensité aussi.
Alors beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'intensité, nous sommes convaincus que c'est probablement un des plus beaux millésimes de la grande année que nous ayons sorti. Vous savez, il y avait le 2002 qui était déjà un millésime assez exceptionnel. On pense que le 2008 est
supérieur.
Quasiment supérieur en termes de potentiel de garde. Donc on va voir, c'est la surprise, d'ailleurs c'est la magie du champagne, hein. C'est que ça évolue, ça va évoluer au fur et à mesure des années, mais on voit déjà une formidable texture, une grande fraîcheur et un potentiel de garde qu'on estime extrêmement...
Votre chef de cave, qui est-il? Il est là depuis longtemps à la maison?
Donc Gilles Descôtes, il est là, ça fait une dizaine d'années, et il a la particularité de venir du vignoble. Donc il a une grosse expertise du vignoble. Bollinger, vous savez, on a un gros vignoble, on a 180 hectares de...
Ce qui est énorme.
180
hectares
de vignes, ce qui est énorme. Et notre conviction, c'est que pour faire des bons vins, il faut des bons raisins et donc un bon terroir. Et c'est pour ça qu'on a un chef de cave qui vient justement du vignoble. Et c'est effectivement la grande année et une des plus belles signatures pour lui.
David Cobol, la grande année, Philippe Orbach, on confirme. C'est...
Ouais, déjà, je dirais que Bollinger, c'est mon champagne préféré. Et je ne m'appelle pas
James Bond et Cobol, décidément. English spoken.
Mais c'était mon partenaire dans le James Bond 1912. Je parlais tout à l'heure. David, vous vous souvenez?
Ouais, c'est le petit frère de Sean Connery, David, en fait.
C'est ça, voilà. Bah, c'est lui qui a adoubé Sean, d'ailleurs, en disant bon, écoute, entre anglophones, viens. Ouais. Tout ça,
puis viens, puis c'est pas une connerie en plus. Alors, allez-y.
Voilà.
Oui,
voilà.
Voilà.
Ce 2008, voilà, et donc des arômes d'agrumes, de baies, d'épices, de notes florales, minérales. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'acidité aussi de ce millésime-là qui fait cette longueur incroyable?
Alors l'acidité, en fait, c'est un grand débat en champagne sur l'acidité. On se rend compte finalement qu'il y a des très grands champagnes qui ont des niveaux d'acidité assez bas aussi. Donc ça remet un petit peu en cause quand même un certain nombre de choses. Mais effectivement, celui-là a un bon niveau d'acidité et un potentiel de garde long. Mais ce n'est pas automatique pour tous les millésimes.
La partie distribution, Charles Armand, donc ça c'est aussi une caractéristique de Bollinger, vous exportez énormément.
Oui, depuis le départ, en fait, Bollinger est une maison très internationale. Déjà, le nom Bollinger, qui était un nom d'origine germanique.
Bollinger.
Et puis, c'est surtout l'Angleterre, où la maison a commencé à se développer fortement en Angleterre. Donc, elle a gardé une dimension très internationale depuis le départ. Et aujourd'hui, plus de 80% de nos bouteilles sont vendues en dehors de la France.
Okay. Et le Brexit, justement, ça vous joue les tours en ce moment? Ça stocke, ça déstocke? Vous aimez toujours les Anglais ou moyen?
Alors, déjà, on adore les Anglais, évidemment. On a une relation...
Ça dépend lesquels.
On a une relation passionnelle,
passionnelle
avec eux. Et en fait, étonnamment, on voit que finalement, il se passe... La maison Bollinger se porte plutôt bien en Angleterre, qui reste toujours quand même notre premier marché d'exportation. Et on voit, donc on en parle beaucoup, beaucoup du Brexit, mais il se passe concrètement quand même pas grand-chose.
Pour le moment.
Et on voit non seulement Spécial Cuvée se porte bien, mais la grande année 2008 qu'on a lancée a fait un des plus beaux démarrages en Angleterre qu'on ait connu. Donc voilà, on parle souvent de la résilience des Anglais.
Oui.
Elle se démontre une fois de plus dans le cadre du Brexit.
Hélène ?
Alors effectivement, James Bond, on en plaisante régulièrement depuis tout à l'heure. Mais effectivement, vous êtes une fois de plus, et ça va aussi concourir à votre notoriété à l'étranger, une fois de plus, dans le prochain James Bond.
Exactement, et cette année, elle est très spéciale parce que nous fêtons aujourd'hui les 40 ans du partenariat de James Bond. Donc 40 ans, c'est une histoire qui est assez fabuleuse. C'est en fait, vous savez, dans les livres de Ian Fleming, il y avait effectivement trois maisons de champagne, dont Bollinger. Et la famille donc, qui a les droits, c'est une famille qui a les droits de James Bond, qui est la famille Broccoli, cherchait finalement un champagne, vraiment un champagne officiel, entre guillemets, de James Bond. Et en 78, ils ont rencontré la famille Bizot, qui était donc à la tête de la maison Bollinger. Et Monsieur Broccoli, donc, qui avait les droits, était un grand passionné de vin fin. Et ils ont dîné ensemble avec Monsieur Bizot il y a 40 ans. Et à la fin du dîner, il a proposé donc à Bollinger de devenir le champagne officiel de James Bond. Ça s'est terminé par une poignée de main. Et le partenariat tient depuis cette poignée de main.
Mais financièrement, ça coûte plein de sous ou pas ?
Il n'y a pas de contrat rémunéré pour la présence
de Bollinger. C'est incroyable, extraordinaire.
C'est juste que chaque membre de la famille Broccoli a un Jéroboam à Noël. Mais bon, je veux dire...
Oui, puis on adore leur dîner avec eux et leur serrer la main à la fin du dîner.
Et donc, le style, donc on va peut-être rappeler aussi la gamme Bollinger, parce que la grande année, oui, mais il n'y a pas que ça, quoi.
Non, alors, évidemment, la signature de Bollinger, c'est le spécial cuvée. On dit souvent en champagne, d'ailleurs, que c'est extrêmement compliqué de faire un non millésimé, puisqu'il faut faire le même goût, finalement, arriver à avoir le même goût toute l'année. C'est 80% à peu près, 80% de nos ventes. Nous avons ensuite la grande année, qui est notre millésimé, où là, on démarre effectivement sur vraiment une dimension artisanale. Et puis, on a RD, qui est le récemment dégorgé, qui est un vin, pour résumer un peu, spécial cuvée, va vieillir autour de 3 ans et demi. La grande année, c'est autour de 7 à 10 ans. Et RD, c'est 14 ans de vieillissement. Donc, en ce moment, c'est le RD 2004. Et puis après, on a vraiment la pépite qui est vieille vigne française. Vieille vigne française, vous savez, nous sommes les seuls à avoir conservé des vignes qui n'ont pas été attaquées par le phylloxéra. Donc nous avons 3 clos de vignes françaises que nous conservons. Et donc les bonnes années, nous pouvons produire quelques flacons qui sont vraiment très limités.
Petit, quoi. Il y a quoi, quelques milliers,
on parle
quoi.
De 1000 à 2000 bouteilles dans les meilleures années.
David Cobol.
Il faut quand même dire, sur ce vin qui est remarquable, que les vignes sont replantées aussi, parce qu'elles ne sont pas nécessairement très
vieilles. Non, bien sûr, elles ne sont pas 100 ans du tout. Ouais. Par contre, ce sont les vignes françaises qui sont...
Non greffées.
Non greffées, quoi. Donc, qui n'ont pas été greffées. Ouais.
Une partie toujours plantée en foule.
Et toujours en foule, et ça, c'est un savoir-faire.
Qu'est-ce que c'est que ça, planter en foule?
C'est un système de reproduction de la vigne où on enterre...
On marcotte, on prend un sarment. Ça, on le met en terre et ça repousse avec une autre plante
et ça fait des racines.
Extraordinaire.
Voilà, c'est le savoir-faire historique de la vigne. Hein. La vigne était plantée comme ça au départ. Et donc ça fait un peu partie aussi de notre mission chez Bollinger, de protéger ces vieilles vignes françaises et aussi de protéger le savoir-faire qui était lié à ces vieilles vignes. Donc on garde ça. Et c'est assez exceptionnel d'ailleurs de voir ce travail et la passion qu'ont les équipes pour justement élever ces raisins.
Merci beaucoup Charles Amand de Belnay. Bravo pour cette belle maison Bollinger. Merci également vous Hélène Piau. InVino Sud Radio retrouve Philippe Aubrac, notre meilleur sommelier du monde, à nous, voilà, pour nous parler de l'Alsace, avec un cépage étonnant. Quoi.
Oui,
étonnant.
Le Sylvaner, qui est un des grands cépages alsaciens, en tout cas qui est connu pour l'Alsace, même si l'origine, on en parlait entre nous avant l'émission, vient simplement du latin trans, Sylvan, et ça fait penser à la Transylvanie, tout simplement.
Et bien sûr.
En Roumanie.
Dracula n'est pas très loin.
Exactement, ça, oui. Au-delà des forêts, parce que Sylvanie, sylviculture, Sylvaner, tout ça, il a la même étymologie, bien entendu. Donc ça venait des Carpates. Et finalement, il est arrivé sûrement via le Rhin, hein, comme souvent, dans cette région alsacienne. Et il fait les beaux jours de l'Alsace depuis très longtemps. C'était le cépage de base des Blancs d'Alsace pendant extrêmement longtemps. Il était quasiment majoritaire pendant longtemps. Aujourd'hui, l'huile est devenue plutôt accessoire. C'est à peu près 13% de la surface plantée. Au profit peut-être d'autres cépages plus parlants, comme le Riesling, qui à mon avis est vraiment le cépage alsacien par essence, mais aussi des plantations hautes comme le Pinot Blanc, le Chardonnay, qui sont des vins qui servent de, enfin, qui sont des cépages qui servent de vin de base pour ensuite produire du crémant d'Alsace qui a vraiment le vent en poupe aujourd'hui. Alors ce Sylvaner, comme tous les vins d'Alsace d'ailleurs, était vendu en vrac pendant très longtemps. Il faut dire que les appellations d'origine contrôlée ont été un peu suspendues en Alsace à cause de la Deuxième Guerre mondiale et de l'annexion de l'Alsace. Donc en 36, on a commencé à mettre en place les appellations, mais il a fallu attendre 62 pour que l'Alsace se structure et obtienne ses premières appellations d'origine contrôlée. Aujourd'hui, donc, il y a des gens qui se battent pour réhabiliter ce cépage. Il avait été exclu de la liste des grands, par exemple des cépages autorisés dans les grands crus d'Alsace, les fameux 50 ou 51 grands crus.
Parce que pas assez noble, parce
ouvert
que,
oui. Exactement qu'au Riesling, au Gewürztraminer, au Muscat et au Pinot Gris. Donc, du coup, il y a des gens qui ont milité pour effectivement faire reconnaître le cépage comme étant dans certains terroirs de grande qualité. Et il a fallu attendre 2005, donc c'est assez récent dans l'histoire, pour que le Zotzenberg, par exemple, soit reconnu dans les grands crus. Et puis, il y en a certains qui ont gardé les Sylvaner alors qu'ils ont été arrachés en général lorsqu'ils étaient dans les grands crus parce que la rentabilité n'était plus là. Donc, certains, je pense à Seppi Landmann, du côté de Sulzmat, qui, dans son Zine Coffelet, a créé sa cuvée ZS, qui marque effectivement le cépage, même s'il ne revendique pas l'appellation grand cru. C'est vraiment le cœur même de ce grand cru, très bien exposé, sud, avec un Sylvaner qui a beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité.
On dit, Philippe, il y a un jardinier célèbre qui a dit, quelle est la définition d'une mauvaise herbe? C'est une plante au mauvais endroit. Et c'est où c'est vrai des vignes.
Mais exactement, exactement. Du coup, avec des rendements plus raisonnables, il ne faut pas non plus penser que les petits rendements, c'est une fin en soi absolue en termes de qualité. Hein. C'est le juste équilibre qui est important pour la plante, et pour le raisin en particulier. Avec des bons rendements, plus faibles peut-être que ceux qu'on a tendance à avoir eu pendant un certain nombre d'années en Alsace et dans des beaux terroirs, exactement, on arrive à avoir des vins de caractère. Et moi, il m'est arrivé, chez Seppi Landmann notamment, de goûter des Sylvaner secs ou en vendange tardive.
Qui était excellent, quoi. Hein.
Oui, et surtout, qui avait 20 ou 30 ans.
Oui.
Et alors que le Sylvaner, c'est plutôt normalement un vin de soif, entre guillemets, c'est comme ça qu'on le définit.
Il y en a très beau en Allemagne aussi.
Voilà, exactement. Alors parmi les producteurs qui valent la peine, Etienne Loves, Albert Seitz, Lucas Reffel, André Ostertag, Jean-Pierre Frick, Seppi Landmann que j'ai déjà cité, Pierre Gassman ou encore René Muret.
Merci beaucoup Philippe Arbrac, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, place de la Madeleine, avec le Château Carbonieux.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas, à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée, avec un nouvel invité, Éric Perrin du château Carbonieux. Bonjour Éric.
Bonjour Alain.
Alors un petit mot sur l'historique de ce château Carbonieux. Il a été créé quand exactement et quand votre famille l'a racheté?
Mais nous, en fait, il y a une longue histoire avec Château Carbonieux, puisqu'on se retrouve dans cette périphérie de la ville de Bordeaux, avec des vignobles qui ont été implantés ici il y a pas loin de 20 siècles par les Romains. Et on retrouve un premier nom de Carbonieux au XIIe siècle, issu d'une famille de Carbonieux qui vivaient et ont été enterrés sur la commune de Léognan. Un siècle plus tard, exactement en fait en 1292, on trouve une communauté de religieux, des moines bénédictins, qui viennent de l'église Sainte-Croix de Bordeaux et qui produisent les premiers vins sous le nom de Carbonieux.
Très bien, ça. Et la famille a racheté quand, votre famille?
Et nous, notre famille, mon grand-père est venu ici en fait et rachète Carbonieux en 1956, donc il y a un peu plus d'une soixantaine d'années de là, et nous sommes avec Christine et Philibert, la troisième génération de Perrin sur Carbonieux.
Ah là là, c'est une très 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 belle histoire. Hélène, vous aimez Château Carbonieux, hein?
Ah, moi je suis complètement fan, effectivement. Donc grand cru glacé de Grave à Pessac-Léognan, et puis un grand domaine, hein, 170 hectares aux portes de Bordeaux, à Léognan donc.
170 hectares avec des bois compris, et en réalité nous avons un peu plus d'une centaine d'hectares qui sont plantés en vigne, et avec un équilibre qui est assez en fait atypique pour la région, puisque nous sommes presque pour moitié en vigne blanche et pour moitié en vigne rouge.
Effectivement, et tout ça d'un seul tenant, ce qui est assez magnifique. Et vous avez coutume d'ailleurs de dire que vous avez 119 parcelles et 119 personnalités.
Oui, c'est vrai, parce que souvent les noms des parcelles ont un prénom, et qui sont issus de la personne en fait qui était responsable en fait de tous les travaux en fait engendrés, que ce soit la taille, les pamprages, jusqu'à la récolte. Et même quand on retrouve une communauté de religieux des moines dans une période fin 18e, avant la Révolution française, ces moines étaient là plutôt en tant que collecteurs et donc le rendaient compte à ces personnes. Quoi.
D'accord. Donc, et donc effectivement,
On a des Amélie, des Marie, des Henri, des Raymond, au lieu d'appeler ça des Cabernet Sauvignon numéro 1, 2, 3 ou des Sauvignon des Sémillon. Voilà.
Et alors 119 prénoms différents.
Voilà, pratiquement oui.
Oh, c'est oui. Magnifique. Et alors, vous assemblez Marie avec Jérôme, Henri avec Philibert, ça marche comment enfin,
Voilà, exactement. Exactement. Et après, on recense nos prénoms à la fin de l'année. On va leur donner, en fait, des étoiles, un peu comme on peut noter, en fait, des restaurants. Et en fonction, disons, de nos goûts, de nos jugements, on aura tendance à amener, en fait, les 2-3 étoiles vers nos grands vins et les 1 étoile, 1 étoile et demie vers nos seconds vins.
D'accord. C'est le mariage donc, pour tous avant l'heure.
On peut assembler exactement des Jérôme avec des Marie ou des Anthony avec des Amélie, quoi.
Et alors, pour ces vendanges 2019, comment ça s'est passé? Parce que j'ai entendu dire que vous vous étiez fait un petit cadeau de Noël avant l'heure, là aussi, avec 5 nouveaux petits foudres pour les vinifications.
Oui, et un nouvel œnologue en la personne de mon fils qui nous a rejoint cette année.
Ah bah bravo, un pèlerin de plus dans la famille.
Un pèlerin de plus. Alors c'est un nom qui est plutôt assez rare dans le vignoble, mais et on en a trouvé un maintenant dans nos chais. Et avec des vendanges de Sauvignon qui ont commencé fin août, et vous me prenez presque à froid puisque nous terminons nos vendanges en fait aujourd'hui. Voilà.
Ah bah très bien, parfait. Ouais,
effectivement, on a de la chance que vous nous consacriez du temps. Et donc, ces petits foudres pour les vinifications, donc, c'est pour avoir vraiment la vinification la plus précise possible selon effectivement vos différentes parcelles.
Et en réalité, quand on avait commencé nos travaux il y a une trentaine d'années de cela avec Denis Bourdieu, il nous avait amené vers des méthodes de fermentation barrique, d'élevage des vins sur lit, de bâtonnage. Et à l'époque, on aimait beaucoup en fait le bois neuf en fait sur les vins, et on aimait amener en fait un apport d'oxygène sur les vins qui les rendait quelque part plus flatteurs plus rapidement. Ce système aujourd'hui de foudre permet de limiter l'apport en oxygène en fait dans le vin pendant son élevage, et également permet de limiter en fait l'apport en bois, qui veut dire en fait que l'on veut essayer de privilégier plutôt le fruit, ou en tout cas les expressions en particulier de Sauvignon Blanc.
Alors Carbonieu également au niveau du prix de vente a toujours été une maison raisonnable, n'est-ce pas
Eric? Ça c'est vous
non,
qui
non,
le dites.
Mais, sincèrement, c'est vrai qu'on a eu pendant la flambée des prix du Bordelais, vous avez été très très raisonnable, c'est une volonté, c'est d'aller rester
oui,
proche du consommateur.
D'abord, issu de notre conversation précédente, Carbonieu est une grande propriété, oui. Et on aime à ce que nos vins également soient des produits en fait de consommation. Que nos vins tournent sur les marchés, tournent sur les tables de restaurants et tournent également dans la cave de nos consommateurs.
Alors avant le coup de cœur d'Hélène, un petit mot peut-être sur la notion de bouchage des vins, c'est important, hein, parfois on a des mauvaises surprises. Vous avez adopté quelle politique, Eric?
Mais sur en l'occurrence, si on veut parler en fait du marché en fait des vins blancs, on est parti dans une notion où on élabore en fait des vins blancs quelque part de qualité. Des vins blancs qui sont faits, qui sont destinés pour voyager. Des vins blancs également qui sont destinés, en fait, pour être gardés. Et nous avons adopté la solution de boucher, en fait, les bouchons avec du diam.
Très bien. Hélène Piau, alors, un petit coup de cœur sur la... Difficile de choisir un vin, hein, parce que les vins sont quand même avec un très, très bon rapport qualité-prix.
Mais écoutez, oui, mais bon, le coup de cœur du jour, ce sera pour le Pessac-Léognan 2017, donc de ce château Carbonieux, avec un nez incroyablement complexe.
Blanc ou rouge?
Blanc, alors, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, blanc. Avec un nez incroyablement complexe, poire, pomme, pêche, silex, algues. J'ai même trouvé une petite note fumée. Enfin, c'était vraiment une palette incroyable. Une bouche à la fois ronde et très vive, en cohérence avec cette belle palette qu'on avait au nez, cette belle palette d'arômes, et puis qui se prolonge très longtemps avec une petite touche d'amertume pour la fraîcheur. Le tout était quand même redoutablement buvable, c'est-à-dire qu'on avait très envie de se servir un deuxième verre.
Attention, avec modération, mais un petit verre. Et le prix, est-ce que le prix est raisonnable également? Le prix est doux de ce Château Carbonieux blanc 2017? On peut peut-être demander à Eric s'il a une estimation. Eric, ça
oui,
coûte combien à peu près en rayon?
Vous connaissez en fait le système bordelais où nous vendons nos vins auprès du négoce et après qu'il le redistribue, mais ce sont des vins que vous allez retrouver dans une gamme de prix plutôt, disons, en magasin entre
oui,
à moins
ça.
De 30 euros.
À moins de 30 euros chez un caviste, quoi.
Et sur une table aux alentours de 60 euros, quoi.
Merci beaucoup Eric Perrin, merci également à vous Hélène Piau. Invino Sud Radio, on retrouve maintenant David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour nous parler des arômes des vins. Alors ça veut dire quoi un vin qui sent la garrigue de Banyuls, la rose de Damas ou la cerise confite noire le matin avec une jolie femme?
Eh bien, ça signifie, c'est la Madeleine de Proust, c'est votre dada à vous, Alain Marty. Mais est-ce que ça parle à quelqu'un d'autre? Ça, c'est un autre problème.
Oui.
Qui n'a pas été sur les terrasses de Banyuls avec vous.
Vous voulez dire que tous les arômes que j'ai trouvés dans mon château Carbonieux, je suis la seule à les avoir trouvés?
Pas nécessairement, mais ça ne veut pas dire que tout le monde aurait trouvé les mêmes arômes.
Oui, c'est ça le problème. Ça. Ouais.
Alors, dans les commentaires sur les vins, et surtout ceux proposés par nous, les professionnels, on insiste beaucoup sur les aspects aromatiques des vins, le célèbre nez du vin, on en parle et parfois on va un peu trop loin. Et parfois en évoquant des substances que la plupart des consommateurs n'ont jamais entendu parler, encore moins senti. Je vais vous donner deux exemples qui viennent des commentaires d'un collègue et d'un copain, belge en l'occurrence. Voilà, un nez bien mûr de pêche jaune et d'abricot, jusqu'à là tout va bien, de melon et de petit marron, parfumé de lavande et de mimosa. Je compte 6 arômes là. Deuxième commentaire, il écrase cassis et myrtille pour en faire éclater les parfums jusqu'au nez. Un élan floral d'irisé de lys renforce l'intensité respirée. Les jus poivrés envahissent la bouche, se libèrent facilement à la soie tannique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un rien de zeste d'agrumes apporte une saveur amère et nette de fruits en évidence le goût des baies. Puis viennent les épices, poivre noir, cumin, réglisse, cardamone qui accompagnent l'acidité fruitée jusqu'en finale. J'en ai compté 10 à 12 arômes là.
Alors, le monsieur vient de quel pays?
La Belgique.
Très bien.
Bon. Alors, je prétends que cette approche est un peu un leurre et peut-être un effet repoussoir pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui vont peut-être dire que le vin est un peu trop complexe. Et je vais étayer mon argumentaire par deux approches. D'abord, l'approche pratique. Un vin se goûte surtout en bouche. Mmh. Évidemment, le nez fait partie et je ne nie pas le fait qu'on respire par rétro-olfaction ce qui est dans la bouche, on le sent aussi au nez. Donc les arômes, c'est important, mais je pense qu'il ne faut pas augmenter trop cette importance. Sur le plan pratique, je pense qu'on est un peu à côté de la plaque si on passe plus de la moitié de son temps à décrire les arômes d'un vin et pas se concentrer sur la bouche. Ensuite, sur le plan scientifique, nous sommes tous ayant des sensibilités différentes. Je vais agrandir un peu cet argumentaire puisque les scientifiques nous ont démontré une partie, ils n'ont pas tout compris encore, le mécanisme du nez. C'est-à-dire qu'on a à peu près 400 capteurs sensibles dans la bulbe olfactive qui ont chaque capteur a des formes différentes et peuvent capter des molécules différentes. Mais on n'a pas tous les mêmes. Au même titre qu'on n'a pas la même taille, la même couleur d'yeux, la même couleur de cheveux, la même forme, etc., etc., etc. Autrement dit, chaque individu est différent. Ensuite, chaque individu a un bagage historique, je dirais culturel et acquis, donc l'inné et l'acquis se lient, différentes. Si vous n'avez jamais senti la garrigue de Banyuls, eh ben, parler de la garrigue de Banyuls, ça ne vous dira rien. Je me souviens très bien la première fois où j'ai fait des voyages en Asie pour parler du vin. J'ai dû réviser mes gammes. Ce n'était pas la peine de parler de fraises et de framboises parce qu'ils ne connaissent ni la fraise ni la framboise.
Oui, c'est ça.
Il fallait aller sur le marché et sentir les choses. Ensuite, si on parle sur le plan, prenons un Gewürztraminer d'Alsace, Philippe a parlé de Sylvaner tout à l'heure, un Gewürztraminer, c'est un cépage très aromatique et très souvent les gens évoquent la rose. Les roses, il y en a 150 variétés naturelles.
Et chacune a une odeur.
Et quelques milliers de variétés de croisements récentes, plus ou moins récentes. Ensuite, il y a à peu près 385 molécules aromatiques dans une fleur de rose. Plus ou moins puissant. Donc on parle de quoi quand on dit arôme de rose?
C'est compliqué.
C'est très compliqué. Moi j'ai planté à peu près une quarantaine de rosiers dans mon jardin dans le sud-ouest.
Il n'y avait pas de guêpes? Il n'y avait pas de problème?
Oui, parfois il y a des guêpes, il y a des abeilles, c'est très bien. Oui. Tous ne sentent pas, et tous ne sentent pas la même chose quand ils sentent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont poivrées, des choses qui sont épicées, des choses qui sont fruitées.
Donc voilà. Ça veut dire que le langage universel pour caractériser des choses n'existe pas?
Je dis que le langage n'existe pas d'une manière universelle, que chacun a sa sensibilité. J'ai testé ça parfois en sentant, en donnant un vin à sentir à deux ou trois personnes. Un va sentir la fraise, un autre va sentir le bois.
Ce qui est quand même assez incroyable. Quoi.
Oui, et c'est normal. C'est-à-dire que chacun a raison. Donc parler exclusivement ou beaucoup des arômes, c'est un non-sens Et ça a, à mon avis, un effet repoussoir sur les gens.
Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que c'est quand même une parfaite logique, hein, ce que raconte David, non?
Alors, effectivement, c'est ce qui est, enfin, l'argument le plus percutant de David, je pense que c'est effectivement, si extérieurement, on est tous si différents les uns des autres, effectivement, oui. Grand, oui. Petit, blond, maigre, etc., on se doute bien qu'à l'intérieur, ça doit être pareil. Je trouve que ça, c'est un argument que j'avais jamais entendu, et qui Philippe est très, Bourbac, très percutant.
Bon, c'est vrai, oui, que... on a tous des seuils de sensibilité très différents.
Si on ne connaît pas la phrase, on ne connaît pas la phrase.
Oui, exactement.
Alors, des expériences différentes, et effectivement, comme le dit Philippe, des seuils très différents.
Merci beaucoup David Cobol, merci également à vous Éric Perrin, Alain Pio et Philippe Forbrac, merci également à Charlotte qui a préparé cette émission avec Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés et en public chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, observez la plus grande démodération.
Sud Radio Invino.